un conseil.
C'est le 27e cours. Deuxième cours sur Bichoul. Attends, on défaille.
Alors bonsoir à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Que David pour l'instant? Ciao à toi. Alors on va continuer la Melacha de Bichoul. On a débuté il y a 2 semaines. On a eu un problème la semaine dernière. Maintenant, on a presque quelque chose de nouveau. Alors, quand on commence une Melacha, on dit qu'on est toujours, on va répéter brièvement la définition de la Melacha. Définition de Melacha de Bichoul, c'est et durcir une substance molle ou ramollir un élément dur par l'intermédiaire du feu. D'accord ? Ça, c'est la. En fait, la Melacha Bichoul, c'est une Melacha assez essentielle dans Shabbat. Et on est très confronté à cette Melacha. Donc, il faut. Et c'est une Melacha aussi qui met du temps, qui est assez complexe, qui a beaucoup de détails. Donc, la première chose à commencer, c'est d'abord définir. D'accord ? La source de la Melachat Bichoul, c'est au Mishkan, on faisait les couleurs. On prenait des graines, on mettait ça dans une marmite, sur le feu. Donc l'action de Bichoul, c'est prendre quelque chose qui est dans un certain état et de transformer cet état. Non. Dès qu'il y a une transformation de la chose par l'intermédiaire du feu. Donc au Mishkan, on prenait. Si je prends l'exemple précis du Mishkan, on prend une marmite avec de l'eau, avec des graines de couleur qui ont été bien pilées, on va dire, mis en poudre. Ensuite, on met ça dans de l'eau et après on prend cette marmite, on la met sur du feu. L'action que je prends la marmite et que je l'approche d'une source de chaleur et qu'après un certain temps X, il va avoir une transformation. Je vais obtenir un résultat qui est différent du moment où j'ai posé sur le feu. Ça, c'est l'action de Melachat Bichoul. Donc il y a plein de sortes différents d'états. On a vu, je crois, au début, quand on a expliqué, il y a plusieurs noms. En français, on dit en général cuire. La cuisson. Mais la cuisson, en fait, il y a plein de modes. Dans une Chod Shabbat, c'est peu importe le mode. Mais il y a des modes qui vont être totalement opposés. Comme par exemple, lorsque je veux cuire du enfourner du pain, je suis en train, la pâte c'est quelque chose de mou, en la mettant dans le four, je vais obtenir quelque chose de dur. Par contre, lorsque je prends une marmite avec de l'eau, et que je mets quelque chose dedans qui a comme par exemple une pomme de terre qui est dure, avec le temps sur le feu, ça va devenir mou, je ramollis. D'accord ? Et le fait en fait de ramollir dans les deux cas de figure, c'est ce qui va me permettre de pouvoir me manger cette chose-là. D'accord ? Il y a une transformation qui a été faite. Donc c'est au durcir une substance molle ou ramollir un élément dur par l'intermédiaire du feu. D'accord ? Et on a vu aussi plein d'autres exemples. Quelqu'un qui prend un métal et qui le fait fondre. Quelqu'un qui prend une bougie de cire et qui la fait fondre. Pareil, on obtient quelque chose. On avait un morceau de cire qui était dur, maintenant on obtient qui est complètement fondu. On a un métal et je le fais brûler jusqu'à ce qu'il devienne totalement rouge. C'est transformer un métal qui est tout à fait froid en une braise ardente, c'est un changement. Toutes les sortes de changements qui sont faits par l'intermédiaire du feu. Ça, c'est en très bref la définition de Melachat Bichoul. Maintenant, il faut commencer à détailler plus cette Melachat de Bichoul. On a dit qu'il y a deux choses pour développer bien la définition. Première chose, c'est que c'est une melacha spéciale qu'il faut un certain temps pour qu'elle s'accomplisse. C'est pas une melacha qui est immédiate. D'accord ? Ça, on avait parlé un peu. Et donc, il faut bien définir quel est le temps qu'il me faut pour dire que j'ai transgressé la melacha. Ça, c'est une première chose qu'on va s'attarder aujourd'hui. Donc on va voir dans trois choses, on va prendre trois sujets, trois choses différentes. Tout ce qui est aliment, tout ce qui est pain, tout ce qu'on enfourne dans le four, et tout ce qui est liquide, eau, bouillon, tout ce qui est liquide. Dans ces trois choses-là, il va avoir, chacun va les définir, quel est le temps qu'il faut pour dire que j'ai transgressé la mélacha. Et deuxième chose aussi, ce qu'il faut voir, c'est la source de chaleur dont on a parlé dans la définition. D'accord ? À partir de quelle source de chaleur est permise, quelle source de chaleur est interdite par la Torah, quelle source de chaleur est interdite par les Rabbanan, ça aussi il faut développer. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je reviens au titre. Zman, le temps qu'il faut pour une mélacha. Alors, si on développe ici, il faut bien savoir. L'action de Bichoul, c'est lorsque j'ai, on va prendre un exemple, une marmite avec de l'eau et que je mets dedans un aliment qui est cru. L'action de Melechet Bichoul, elle va commencer au moment où je pose mon aliment, en fait dans mon cas, ma marmite, sur la flamme. Ça s'appelle que je commence la Melacha de Bichoul. Mais la Melacha ne s'est pas encore terminée. La Melacha va se terminer après un temps X. Alors maintenant, il faut bien préciser quelque chose. Première chose, on voit d'ici que ça, le Bichoul, il n'a rien à voir avec la flamme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une erreur. Une erreur, bon, si on ne connaît pas bien les principes des Melachot, on ne dit pas que si par exemple j'ai mon four qui est allumé, par exemple, donc pendant je peux rentrer quelque chose pendant Shabbat, et je peux cuire, parce que c'est déjà allumé. Ou bien si j'ai une flamme qui est déjà existante, je peux poser dessus parce que la flamme elle est déjà existante. Le fait que la flamme existe, ou qu'elle existe, ou de la faire exister, ça n'a rien à voir avec la Melacha de Bichoul. Ça a à voir avec une autre Melacha, qui s'appelle Melechet Mav'ir. On va lire demain matin, on va lire ça. L'otevaharu esh bechol moshvotechem beyom haShabbat. On n'a pas le droit de faire consumer du feu le jour chez vous le jour du Shabbat. Donc le fait de faire exister ce feu-là, c'est un autre acte. C'est une melechet mav'ir. La melacha de Bichoul, c'est poser, déposer sur cette source de chaleur quelque chose qui a un aspect et que je veux le changer par l'intermédiaire du feu. D'accord ? Donc si sa flamme existe avant Shabbat, donc je n'ai pas transgressé la Melecha de Mavir, mais j'ai devant moi une Melecha de Bichoul. Donc il faut bien différencier ces deux actes-là. Faire exister la flamme, la source de chaleur, la mettre en évidence, et après, commencer à cuire. Maintenant, lorsque j'ai posé, on a dit que ça ne se fait pas directement la Melecha. Alors si, il ne faut pas confondre, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas dire que le fait, puisque ça... Allô ? Je vois plus rien, là, l'écran il s'est... Ah, c'est bon. Le fait que ça va mettre du temps, on va dire que c'est un temps X pour que ça se cuisine, pour que ça se transforme. Alors on ne dit pas que maintenant le fait de poser, c'est je vais causer le bichoul. Et on sait très bien, dans les cours d'introduction, on a vu qu'il y a un principe qui s'appelle grama, causer. La Torah interdit de faire qu'un acte direct. Faire un acte de grama, l'exemple classique, c'est l'exemple des cruches. Je mets une cruche d'eau devant une flamme. La flamme, elle va arriver et elle va faire briser la cruche et après, ça va s'éteindre. Ça s'appelle que j'ai causé. Causer, on dit que ça ne rentre pas dans les klalim ça rentre pas dans les règles des melachot de Shabbat. Il faut faire quelque chose de direct. Alors là, il ne faut pas se tromper et dire que le fait que quand je pose sur la flamme, ça ne va pas cuire encore. Et ça va mettre un temps X pour cuire. Donc je veux dire que ce temps-là, ça maintenant s'appelle que je cause la cuisson de cet aliment. Ça, c'est sûr que non. Pourquoi ? Puisque le fait que cuire, ça prend toujours du temps. Donc, même si je ne suis pas encore arrivé à la Melacha, mais puisque c'est la démarche qu'il faut pour la Melacha, ça s'appelle du direct. D'accord ? Donc, dès que je pose ça sur la flamme, l'action de la Melacha. L'action de la Melacha, c'est le moment où je pose, malgré que la Melacha n'a pas encore été accomplie. Et le fait que la Melacha n'a pas été accomplie directement, ça ne rend pas mon action indirecte, grama. C'est une action directe. Ça veut dire, la Melacha, elle n'est pas directe, Mais l'action pour se rendre hayav, il va être considéré comme direct, puisque ça prend du temps. Donc sur ça, on ne dit pas grama. Grama, c'est de faire, on a expliqué, on a expliqué ça plus en détail. Grama, c'est de faire une action qui n'a rien à voir avec la melacha. Lorsque je pose une cruche devant une flamme, est-ce que le fait, quand j'analyse mon action de poser une cruche, est-ce que ça s'appelle que j'éteins? Non. Si j'analyse, je prends une cruche d'eau, je pose. Poser une cruche, ça ne s'appelle pas éteindre. Ah, par contre, si tu mets une cruche d'eau devant une flamme, alors la flamme, après, elle va venir en contact avec l'eau et ça va s'éteindre. C'est deux actions qui n'ont rien à voir. Ça s'appelle causer et grama, et ça descend en un issour des Rabbanan, qui est permis dans certains cas de figure. Mais là, poser un aliment cru sur une source de chaleur, ça s'appelle cuire. Ah, ça peint, on n'est pas encore arrivé à la mélacha de Bichoul, d'accord, mais c'est comme ça qu'on cuit. Donc, ça ne s'appelle pas grama. D'accord, ça aussi, c'est une erreur qu'on va faire. Donc, deux erreurs avant de commencer à voir le temps de la mélacha que ça prend. Deux erreurs à ne pas faire, c'est-à-dire deux choses à bien préciser. Qu'on a affaire toujours, en général, à deux mélachot très très différentes lorsqu'on parle de Bichoul. Premièrement, créer la source de chaleur. Donc si on la crée le jour du Shabbat, on transgresse la mélacha de Maveir. Si elle existe déjà avant Shabbat, donc elle existe. Mais là, on ne commence pas du tout le Bichoul. Le Bichoul, il commence à approcher un aliment cru devant, sur la source de chaleur. Donc il faut bien différencier les deux choses. C'est pas parce que j'ai une flamme que ça y est, je peux cuire. Deuxième nekuda, le fait de mettre sur la source de chaleur et que ça va prendre du temps, ça ne transforme pas en une action indirecte. Ça s'appelle du direct, même si la melacha ne commence pas directement. Parce que c'est en fait une action, une longue action suivie, que je débute lorsque je pose sur le feu. Si par exemple je mets une marmite crue 5 minutes avant l'entrée de Shabbat, et que ça va continuer à cuire pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. Je parle théoriquement de la melacha. On va voir qu'il y a d'autres problèmes qui rentrent en jeu, mais moi, pour l'instant, là, je suis en train de parler netto sur la melacha de Bichoul. Le fait de poser un plat complètement cru 5 minutes avant l'entrée de Shabbat, même si tout le Bichoul va se faire pendant Shabbat, je n'ai rien transgressé. Pourquoi ? Parce qu'on se réfère toujours au moment où je m'approche, où je fais approcher sur la source de chaleur l'aliment cru. Ça, c'est l'instant de la melacha de Bichoul. Est-ce que c'est clair, cette nekuda-là? Oui, David? David?
Vous m'entendez?
C'est bon?
Oui, c'est bon. Vous m'entendez, c'est bon?
Oui, très bien.
Ok. Oui, c'est bon, j'ai bien compris.
C'est-à-dire que si je mets ça quelques minutes avant l'entrée de Shabbat, c'est pas, même si le bichoul, même si la cuisson, elle va se faire quasiment pendant le Shabbat, mais c'est tout à fait permis, parce que je ne transgresse pas l'interdit de bichoul. L'interdit de bichoul, c'est l'instant où je mets. Et bien sûr, ça va laisser, ça va continuer, ça va se développer, ça va être. Maintenant, on commence à développer chaque chose. Première chose, tout ce qui est aliment. Cuire un aliment. Combien de temps il faut pour dire que j'ai transgressé l'action de la melacha de Bichoul? Alors ça, on a vu, il y a quelque chose, un principe dans le Maharal, s'appelle, c'est Ma'achal ben Derusai. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui s'appelait Ben Derusai, il n'avait pas le temps. C'était un brigand, il avait beaucoup de vols à faire. Et il cuisait ces choses pas entièrement. C'est-à-dire, il cuit, mais d'une manière à ce que ça soit mangeable, mais ce n'est pas encore cuit comme il faut. Ça s'appelle, dans la chaîne, dans les Melachot, ça s'appelle Ma'achal Ben Derusai, c'est son nom. Donc on a pris ça à titre de nom pour savoir qu'est-ce qui s'appelle un aliment qui a déjà commencé à transformer. Malgré qu'il ne soit pas transformé totalement. Dès qu'on arrive à ce stade-là, on a transgressé la melacha de Bichoul. Parce que, quand même, j'ai déjà un certain résultat qui est mangeable. Avant ça, je n'ai pas encore transgressé la melacha de Bichoul. C'est-à-dire que si jamais on va dire que D'abord, on va définir qu'est-ce que c'est ce Mahal Bederosai. Il y a une discussion dans les poskim, dans les rishonim. Il y en a qui disent que c'est la moitié du temps qu'il faut pour cuire. Et il y en a qui disent que c'est le tiers. C'est-à-dire que si pour un aliment, il me faut un temps X de cuisson, la moitié de ce temps, si la moitié s'est déjà écoulée pour cet aliment-là, ça s'appelle Mahal Bederosai et ça s'appelle que j'ai transgressé la Melacha de Bishul. Parce que j'ai déjà obtenu un résultat important qui est mangeable, moitié de bichou. Et il y en a qui disent plus moins de temps que ça, le tiers. Donc on a un grand cal, une grande règle qui nous dit que lorsqu'on a un safek, un doute, dans quelque chose qui est de la Torah, alors on prend la vie le plus strict. Safek de oraita, la chumra, ça s'appelle en araméen. Donc on va prendre le tiers. Donc maintenant, la définition qu'on a, c'est que si je cuis un aliment, je pose un aliment, je reviens toujours à la définition de base, je pose un aliment qui est cru, et je le pose sur le feu, c'est écoulé un temps de la tiers, du tiers de la cuisson qu'il faut pour cet aliment-là, j'ai transgressé la melacha de Bishul. Si par exemple maintenant, avant le tiers, d'accord, on va dire, je suis au quart de la cuisson, et je retire maintenant mon plat. Alors, si je retire mon plat, je n'ai pas transgressé la melacha de Bishul. Malgré qu'on a dit tout à l'heure que la melacha de Bishul s'est posée, mais il faut une condition, que le temps s'écoule. Ça veut dire que, qu'est-ce qui va dire l'acte de la melacha de Bishul? L'acte de la melacha de Bishul s'est posé sur une source de chaleur. Mais il y a une condition, il faut qu'il y ait le temps. Si maintenant j'enlève ça avant le temps, donc j'ai pas transgressé la melacha de Bishul. D'accord ? Il faut que le tiers du temps s'est écoulé. Maintenant, il faut bien préciser quelque chose d'important. Si on va dire, mon aliment avant Shabbat, on va dire, est déjà arrivé, on va dire, même à la moitié de sa cuisson. D'accord ? Maintenant, je viens pendant Shabbat, je prends cet aliment, je le pose sur le feu. Et je termine la cuisson. Est-ce que j'ai transgressé la melacha de Bishul?
Est-ce que ça dépend toujours du temps?
C'est-à-dire? C'est-à-dire c'était déjà mangeable. C'est-à-dire je suis déjà arrivé à Shabbat. Avant Shabbat, c'était déjà cuit à moitié. Maintenant, en fait, je termine. Je vais mettre ça sur la flamme. Donc je fais l'acte de Bishul posé sur la source de chaleur. Et je vais faire l'autre moitié de la cuisson jusqu'à ce que ça va être, en langage de Gemara, ça s'appelle kol sorko, c'est-à-dire tout le temps qu'il faut. Donc je continue l'autre moitié de Bishul. Est-ce que j'ai transgressé la melacha de Bishul?
J'aurais dit que oui.
Alors tout à fait.
Si. Parce que en fait, moi je m'imagine que s'il y a déjà la moitié de la cuisson. Prend cet état comme initial en fait. En fait, il faudrait que. J'imagine donc. Par exemple, si un aliment est cuit en 2 heures, par exemple, et qu'on a déjà fait 1 heure de cuisson, alors si on le met 1 heure, il faudrait le mettre en fait un tiers de ce temps pour pas transgresser, non? C'est une question.
C'est ça, c'est pour ça que je demande. Parce que même ça, c'est une discussion dans les régionim.
D'accord.
Mais parce qu'on peut dire d'un côté. Que si le temps X qu'il me faut pour dire que j'ai cuit, c'est un tiers. Donc c'est une fois que c'est déjà un tiers, c'est déjà mangeable. Donc le fait que je continue, c'est pas trop important. Parce que le plus important, c'est de le faire de 0 à un tiers. Le plus important, c'est de faire un mangeable à mangeable. D'accord ? Mais le fait que ça soit pas assez mangeable et que je continue jusqu'à ce que ça devient bien mangeable, peut-être que c'est pas assez important pour dire que c'est melacha de Bishul. C'est là les deux côtés de la discussion. La halakha, ça a été tranché, que toute chose que je vais faire pour activer et accélérer la cuisson jusqu'à kol sorko, c'est-à-dire jusqu'au total, ça rentre dans la melacha de Bishul.
D'accord.
Pourquoi je précise ça? Parce que tout à l'heure, on a dit que dès que je suis arrivé au tiers, j'ai déjà transgressé. C'est vrai? Parce que je suis arrivé à un stade déjà qui est important, il y a une certaine transformation.
D'accord.
Mais ça ne veut pas dire que si je continue à faire d'autres transformations, que je ne veux pas rentrer dans la melacha de Bishul. Toute chose que je vais faire pour accélérer, ça va rentrer dans la melacha de Bishul.
D'accord.
D'accord. C'est en fait une discussion dans les Rishonim, mais je dis la halakha très tranchée, comme ça on tient. Tant que c'est pas arrivé à Kol Tsoko, alors là, il y a un problème de bichoul. Un cas pratique, si par exemple j'ai ma marmite à l'entrée de Shabbat, on va dire avant Shabbat j'ai posé ma marmite, des fois on pose des plats que je veux manger le Shabbat matin et qui ne sont pas encore tout à fait cuits. Donc maintenant, on va dire, prendre un exemple comme ça classique. Si j'ai une plaque, une genre de. Je mets une plaque sur le feu comme ça, une plaque en fer. On va dire que ma marmite, elle est un peu éloignée de la flamme. D'accord ? Et j'ai posé ça bien sûr avant Shabbat, parce que l'action c'est Bichou, j'ai fait ça, poser ça avant Shabbat. Seulement le vendredi soir, je bouge un peu ma marmite et je la rapproche de la flamme. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire en fait ? Mon stade maintenant de ma marmite, il est en train de cuire, il est dans sa cuisson, et j'accélère la cuisson. Donc le fait de bouger la marmite, ça sera une mélachette de Bichoul. Parce que j'accélère un plat qui n'est pas encore terminé. Donc toute accélération et tout le fait que j'active la mélachette de Bichoul, ça va rentrer dans la mélachette. Même mieux encore, si j'ouvre le couvercle pour vérifier un peu qu'est-ce qui se passe dans ma marmite le vendredi soir, mais c'est quelque chose, il y a là-bas, il y a des pommes de terre, il y a de la viande, c'est des choses qui mettent longtemps à cuire. Et que je referme le couvercle, là aussi je rentre dans un problème de bichoul. Parce que j'active, lorsque le couvercle est ouvert ou lorsque le couvercle est fermé, c'est pas la même chose. Ça active la cuisson. D'accord ? Donc toute chose que je vais faire, là même là, on va voir par la suite dans la mélacha de bichoul, que même quelqu'un qui remue, c'est-à-dire que j'ai pas bougé la marmite, j'ai pas enlevé le couvercle qui était toujours, on va dire, découvert, et je prends une cuillère et je remue mon plat. Rien que le fait de remuer le plat, lorsque le plat n'est pas encore arrivé à Kol Tsoko, c'est aussi une mélacha de bichoul. D'accord ? Donc il y a cette nuance à faire. De passer de l'état 0 à l'état 1 tiers de cuisson, c'est le temps qu'il faut pour bichoul. Avant ça, il n'y a pas de bichoul. Il n'y a pas de mélacha, il n'y a rien. Dès que j'ai dépassé ce 1 tiers et que je ne suis pas encore arrivé à Kol Tsoko, toute action que je vais faire pour accélérer et activer le bichoul, ça rentrera dans la mélacha de bichoul.
Une question.
Oui.
Si on a un plat qui est cuit,
qui est
qui est déjà cuit en fait.
Mm-hmm.
En fait, il chauffe du plat qui est déjà chaud. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ?
C'est-à-dire que ce que je suis en train de mettre maintenant, il est cru ou il est cuit ?
Voilà, j'avais un plat sur ma plata, je l'ai enlevé, mais je le mets sur ma table.
Mm-hmm.
Et
bonne question. Bonne question. Maintenant, vous êtes en train de passer au stade qui est après le Kol Tsoko. On a parlé pour l'instant de cru à un tiers. Ensuite, on a parlé de un tiers jusqu'à cuisson totale. Maintenant, vous rentrez dans le stade plus loin encore. C'est-à-dire, il y a déjà eu la cuisson totale et je veux juste le réchauffer. D'accord ? Alors ça, on va y arriver doucement, doucement, ça va être la suite dans les cours. Est-ce que il y a un bichoul, est-ce que même après le stade de Kol Tsoko, c'est-à-dire cuisson totale, est-ce qu'il y a un mélacha de bichoul ou pas ? Ça, on va y arriver par la suite. D'accord ? C'est-à-dire la source de chaleur, je l'ai, je pose ça sur la plata. Seulement, j'ai pas d'aliment qui est cru, j'ai déjà fait le Kol Tsoko. D'accord ? Mais d'un autre côté, j'ai une amélioration parce que je chauffe. Voilà. Alors c'est ça qu'il faut. Ça, c'est à traiter. On va rentrer dans le sujet, en fait, juste le titre. C'est Yesh Bichoul, Oen Bichoul, Achar Bichoul. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un Bichoul après un autre Bichoul ? D'accord ? Donc ça, on va y arriver en temps voulu, mais ça déjà. On continue toujours dans la définition des Maharalim. Si j'ai quelque chose de mangeable cru, Par exemple, je vais faire une compote de pommes. Donc j'ai des pommes crues qui sont mangeables. Est-ce que le fait de faire une compote, ça va être un interdit de bichoul?
Il y a un changement d'état quand même, non?
Voilà, la question c'est ça. D'un côté, il y a un changement d'état, mais d'un autre côté, c'est mangeable. C'est tout à fait mangeable, même une pomme crue. D'accord? Alors aussi, il faut préciser que sur ça aussi, il y a une mélacha de bichoul. Pourquoi? Parce que cuire quelque chose, quand on dit tout le mot bichoul, c'est cuire, c'est pas forcément cuire quelque chose de cru. Même si je cuis quelque chose qui est mangeable cru, d'accord? Mais c'est tout à fait l'habitude de le cuire, comme par exemple, l'exemple, j'ai dit compote de pommes. Une pomme, il y a deux manières de les manger. Il y a ou les manger crues, ou les manger cuites. D'accord? On les mange comme ça, on les mange comme ça. Donc, puisque maintenant j'améliore et je change d'état, une compote de pommes, c'est pas manger une pomme qui est crue. Donc, ça rentre aussi dans la mélacha de bichoul. Faut pas dire que bichoul, c'est que de passer de cru à un tiers et total. Non, même quelque chose qui est mangeable cru, du moment qu'il y a un changement, ça fera la mélacha de bichoul. Ça, il faut bien préciser. Ça ressemble, là, entre parenthèses, ça ressemble pas, par exemple, à bichoulé akoum. Bichoul akoum, ça veut dire un goy. On n'a pas le droit de manger quelque chose qu'un goy a cuit. Ça, c'est une dé à la rote. Il y a des détails qu'on peut, on va rentrer dans les détails maintenant. Mais dans bichoulé akoum, un goy qui est cuit, si la chose elle est mangeable avant qu'il le cuise, il n'y a pas d'interdit. L'interdit, il est que s'il cuit des choses que moi je ne peux pas manger. Pourquoi? Parce que, quand même, il y a une différence, quand même, il y a une petite nuance. Quelque chose de cru, le bichoul, il est plus important que de quelque chose qui n'est pas mangeable. Parce que là, une compote de pommes, je suis en train de varier la manière de manger. Tandis que quelque chose qui est cru, c'est immangeable. Donc, rachamim, on interdit que quelque chose que le goy m'a fait quelque chose d'important. Passer de cru à cru. D'accord? Ça, c'est dans l'exérote de rachamim qui s'appelle bichoulé akoum, la cuisson d'un goy, d'un non-juif. Mais dans Shabbat, on ne regarde pas ça. Dans Shabbat, on voit la melacha, l'amélioration. Si maintenant, j'ai changé complètement d'aspect, j'ai ramolli, d'après encore une fois, je reviens à la définition du Rambam, ramollir quelque chose de dur, quelque chose qui se mange cru, la pomme par exemple, elle est dure. Lorsque je fais une compote de pomme, j'ai entièrement ramolli la pomme, j'ai un nouvel aspect, un nouvel état, c'est une melacha importante et c'est khashoggi. Par contre, si je cuis quelque chose que personne n'a l'habitude de cuire. On va prendre un exemple bizarre. Quelqu'un va dire qu'il cuit une pastèque sur le feu. C'est bizarre. Et ben, d'après la définition, elle va se ramollir la pastèque. Elle était à un certain état. Et maintenant, je l'ai ramollie et je l'ai mis sur le feu. Et il y a eu un temps X qui s'est écoulé. Mais là, je n'ai pas transgressé la melacha de bichoul. Comme ça, le Rambam écrit de manière claire. Parce que c'est... Et Rambam dit Mishim Vachel d'avoir chez En Tsarich Bichoul. Il n'a pas besoin de Bichoul. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de cuire. Là, on rentre dans une règle qui dit que je fais quelque chose de bizarre. Quelqu'un qui fait quelque chose de bizarre le jour de Shabbat, on ne peut pas dire que tu fais une melacha. Une melacha, c'est quelque chose qui est normal. On ne peut pas faire quelque chose d'anormal. Donc, même s'il y a toutes les définitions qui étaient accomplies, puisque c'est anormal, on ne peut pas être hayav là-dessus. Ça sera par contre interdit par les chachamim. D'accord? Mais en tout cas, ce ne sera pas une melacha. Par contre, quelque chose qui est mangeable cru et de faire ça un autre aspect, cuit, compote de pommes, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Malgré qu'il n'y a pas le c'est pas comme transformer quelque chose de cru en cuit. Quand même, puisque ce n'est pas anormal, c'est tout à fait l'habitude et il y a eu un vrai changement de dur à mou, ça rentre dans la melacha de bichoul. D'accord? Maintenant, continuons, on passe à un nouveau mode maintenant. Lechem, le pain. Le pain en hébreu, ça s'appelle afia. Là, qu'est-ce que je fais? C'est l'inverse de ce qu'on vient de parler, ramollir quelque chose de dur. C'est, je durcis quelque chose de mou. La pâte, c'est mou et je durcis. Donc, pareil, au moment où je rentre mon pain dans le four, c'est l'instant T, c'est approcher la chose de cru dans la source de chaleur. C'est-à-dire allumer mon four, ce sera Melechet Mavrir. D'accord? Ensuite, mettre le pain dans le four, à ce moment précis, c'est le moment où commence la Melacha de Bichoul. Mais il faut un Tnaï. Quel Tnaï il faut? Alors la Mishnah nous dit, Il faut que ça commence à avoir une croûte. En hébreu, ça s'appelle Hachi Kremu Panea. Comme une genre de croûte, ça commence à être doré sur les côtés du pain. En fait, ça durcit. C'est en fait la règle qu'on vient dire que c'est durcir quelque chose de mou. Dès qu'il y a une croûte qui se forme, d'accord, sur les deux côtés du pain, c'est le moment, c'est comme en fait le tiers d'une cuisson dans un aliment. Quand la croûte elle se forme, c'est possible qu'à l'intérieur, ce n'est pas encore tout à fait encore un bon pain qui est cuit normalement. Mais je suis déjà arrivé à un stade qui est déjà transformation de la pâte que j'ai fait rentrer dans le four. D'accord ? Donc ça, c'est le temps X qu'il faut dans le afia, dans le mode de afia. Il y a quelque chose d'intéressant. Hein. À l'époque de la Mara, on collait le pain dans les fours d'avant d'époque. On collait le pain sur les parois. Maintenant, pour retirer le pain, il fallait prendre une genre de pelle comme ça. Maintenant, utiliser cette pelle le jour du Shabbat, ça n'interdit les chachamim. Ça ouvre d'une des choses, ça n'interdit les chachamim. Alors la Gemara traite un sujet. Si par exemple quelqu'un il a collé comme ça une pâte sur les parois du four et ça n'a pas encore eu de croûte, est-ce qu'il a le droit de prendre cette pelle là et d'enlever cette pâte là du four? Si j'utilise la pelle, ça interdit les chachamim. Mais si je laisse mon pain coller et que ça va devenir croûte, je veux transgresser l'interdit de Bichoul. Alors là, la Gemara nous dit, on a le droit de faire un interdit simple, calme, léger, pour ne pas arriver à un interdit qui est plus grave. Donc j'aurai le droit d'utiliser. Comme ça, la Gemara nous dit. Mais si jamais maintenant, il y a quelqu'un qui a posé sur le four, comme ça, le morceau de pâte, quelqu'un d'autre veut essayer de lui enlever pour pas que son ami transgresse l'interdit de Bichoul. Est-ce qu'il a le droit? Alors là, la Gemara a dit « En omrim chate bijvit shizke chavecha ». Moi, je n'ai pas le droit de faire même un petit interdit pour que mon ami ne transgresse pas un grand interdit. Ouais. Ça, c'est entre parenthèses parce que ce n'est pas trop pratique maintenant ces fours-là. C'est juste pour le principe. Que pour la personne lui-même, puisque maintenant dans Bichoul, ils font un temps X, alors là, tant qu'elle n'est pas encore arrivée dans ce temps, elle a le droit de faire un issur des rabbanan kal pour ne pas arriver à un issur hamour. Mais moi, je n'ai pas le droit de faire pour mon ami. Même un petit issur, même si l'autre va arriver à un issur qui est plus grave. Maintenant, techniquement, si quelqu'un est rentré dans le four, le fait d'enlever du four, il n'y a pas d'interdit. Donc j'aurais le droit même d'enlever, si quelqu'un, par exemple, a rentré un plat de poulet dans le four, et je vois qu'il a rentré, 5 minutes après, j'ai le droit d'ouvrir la porte du four et d'enlever ce qu'il a mis à l'intérieur. Parce que le fait d'enlever du marmite, ce n'est pas un interdit des chachamim d'utiliser une pelle. On enlève tout simplement du four. Donc là, on ne rentre pas dans ce principe. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, on continue, on aborde un nouveau sujet. Toujours dans ce même cadre, le temps de Bichoul qu'il faut. Tout ce qui est liquide. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose. On va prendre l'eau, on va prendre le liquide le plus simple, c'est de l'eau. Si je prends de l'eau, d'accord, je prends de l'eau, on va dire une marmite remplie d'eau, et je la pose sur le feu. Un nouveau sujet. Toujours dans ce même cadre, le temps de Bichoul qu'il faut. Tout ce qui est liquide. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose. On va prendre l'eau, on va prendre le liquide le plus simple, c'est de l'eau. Si je prends de l'eau, d'accord, je prends de l'eau, on va dire une marmite remplie d'eau, et je la pose sur le feu. On prend le liquide le plus simple, c'est de l'eau. Si je prends de l'eau, d'accord, je prends de l'eau, on va dire une marmite remplie d'eau, et je la pose sur le feu. D'accord ? Je vais attendre un certain temps jusqu'à ce que cette eau va bouillir. On va dire pour l'instant, théoriquement, bouillir à 100 degrés. Est-ce que j'ai transgressé un issur de Bichoul? Est-ce que je transgresse l'interdit de Bichoul? Ah oui. Seulement, il faut expliquer un petit peu pourquoi, parce que là, c'est un peu différent. Parce qu'on a toujours dit dans la définition que c'est toujours ramollir quelque chose de dur ou durcir quelque chose de mou. Dans l'eau, c'est un peu compliqué à comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors d'abord, il faut savoir que c'est une Mishnah Mefureshet, une Gemara claire, que quelqu'un qui fait bouillir de l'eau le jour du Shabbat, il transgresse l'interdit de Bichoul. D'accord ? Alors, il faut expliquer. Et il faut qu'on est obligé d'expliquer comme ça un peu les Mefarchim, ils expliquent qu'une eau qui est bouillie et une eau qui n'a pas été bouillie, c'est très différent. Alors, la différence, on ne la voit pas à l'œil nu. C'est ça qui est intéressant ici dans les liquides. C'est pas comme si je prends quelque chose de cru et maintenant je vois quelque chose de cuit. Mais il y a une différence. D'abord, point de vue physique et chimique, ceux qui se connaissent bien là-dedans, dans les particules d'eau qui ont été bouillies et l'eau qui n'a pas été bouillie, il y a une très grande différence. Mais, par exemple, le RAN, il dit qu'une eau qui est bouillie et qui est refroidie, le temps qu'il faut pour la rebouillir, il va être plus court que le temps qu'il faut pour une eau qui n'a pas été bouillie de la faire bouillir. Ça sera plus rapide. Pourquoi ? Parce que l'aspect de l'eau a changé. Même si on ne voit pas tellement à l'œil nu, mais il faut savoir que l'eau qui a été bouillie est très différente d'une eau qui n'a pas été bouillie. Donc il y a eu un changement. Donc, même dans les liquides, d'accord, de faire bouillir, de mettre, encore une fois, d'amener un liquide qui n'a jamais été cuit, pour l'instant, parler, et que je l'approche de la source de chaleur, et que maintenant je le fais bouillir, je transgresse la melacha de Bichoul. Maintenant, il faut expliquer quel est le temps X maintenant. Ici, il n'y a pas de tiers, c'est pas possible de parler ici ni de tiers, ni de moitié, parce que c'est pas un aliment qui doit arriver à sa cuisson. Alors, la Gemara nous dit, elle prend le terme, c'est un terme, on va l'utiliser souvent dans la melacha de Bichoul, c'est une des phrases clés de Bichoul, s'appelle Yad Soledet Bo. Traduction, la main ne supporte pas à l'intérieur. C'est-à-dire que si maintenant cette eau, je prends une marmite d'eau qui est froide, donc je peux tremper ma main à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Mais si cette eau elle arrive à un certain degré, ou par exemple je trempe mon doigt là-bas, un certain temps, j'arrive à le maintenir à l'intérieur, ça s'appelle pas Yad Soledet Bo. Ma main, elle supporte. Soledet, ça veut dire ne pas supporter. Dès que j'arrive à un instant où ma main ne peut pas supporter de rester dans cette eau-là, ça s'appelle que j'arrive au stade du bichoul de l'eau. D'accord ? Ça s'appelle Yad Soledet Bo. Alors maintenant, il y a une grosse difficulté à définir quel est le degré. Entre 0 et 100 degrés. Pour dire que je suis arrivé au degré de Yad Soledet Bo. Parce que si je dis ma main, alors ça va dépendre de la main de chacun. Ça va dépendre de la grosseur du doigt, ça va dépendre de la nature de la peau, ça va dépendre de la force de la personne de résister. Donc c'est très difficile, mais on doit arriver à un degré précis pour savoir que je suis arrivé au bichoul ou je ne suis pas arrivé au bichoul de l'eau. Alors la Gemara nous donne un autre moyen. On ne rentre pas dans ce problème. La Gemara donne un moyen, c'est la chaleur que si jamais le ventre d'un nourrisson est en contact avec ces chaleurs, il brûle. Alors maintenant, bien sûr, on n'a pas dit de faire l'expérience. Ouais. On parle théoriquement. Si cette eau-là, elle brûlerait le ventre d'un nourrisson, c'est arrivé au degré de Yad Soledet Bo. Et là, tous les nourrissons, ils sont à peu près pareils. Donc là, le degré, il est à peu près plus facile à déterminer. Ça, c'est un premier avis. Et il y a un autre avis, c'est l'avis du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il dit, même ça, c'est difficile à savoir exactement le ventre des nourrissons, donc il dit, c'est tout. Si par exemple j'ai un aliment qui vient de sortir du four, d'accord, que si ça vient de sortir du four, je ne peux pas le manger. Il faut attendre un certain temps. D'accord ? Ou par exemple, je verse de ma bouilloire un thé, je ne peux pas prendre ce thé et le boire d'un trait comme un verre d'eau fraîche. Donc il dit le Ben Ishra, il dit comme ça. Si c'est une température qui t'empêche de manger ça normalement ou de boire ça normalement, ça s'appelle Yad Soledet Bo. Si, malgré que ça soit chaud, tu arrives à le manger normalement, sans faire de grimaces et sans te forcer, et à boire ça normalement comme un verre normal, Alors c'est pas Yatsole Dedo. Comme ça le Ben Israël. Donc là, on est d'accord que c'est une température un peu plus basse que de faire maintenir mon doigt à l'intérieur. C'est moins, si je vais d'après ce critère-là de mangeable par la chaleur ou pas mangeable par la chaleur, c'est une température qui est plus basse. Donc vraiment, j'ai deux avis pour expliquer cette fameuse limite de Yad Soled Edbo. Ou bien l'avis qui dit d'utiliser les doigts, ça c'est difficile à savoir, ou bien l'avis qui est c'est la chaleur théorique pour brûler le ventre d'un nourrisson, ou bien la troisième avis, c'est une température qui peut me permettre de manger ça normalement, sans sauter en l'air. Ça, c'est les trois avis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pardon? J'entends pas.
Le troisième avis, en fait, il dépend beaucoup de la personne, en fait, si elle est habituée à...
Alors, on prend une personne moyenne, à peu près. Si je prends une personne, je prends 10 personnes, je vois à peu près la majorité des gens. On est d'accord que dans cette moyenne-là que je vais trouver, ça va être une température inférieure au premier critère que j'ai dit. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel degré c'est? Alors là, la définition, elle est très simple. Le Rav Oyerbach, le Rav Shlomo Zalman Oyerbach, le Rav Moshe Feinstein, les Acharonim, ils ont à peu près déterminé de quoi on parle. D'après le premier avis, à peu près, je parle de la majorité, bien sûr qu'il va y avoir des nuances entre tel rave et tel rave, mais je parle quelque chose de clair, où est-ce qu'on est arrivé dans les degrés. D'après le premier avis, c'est à peu près entre 60 et 65 degrés. D'accord? On peut faire un essai, prendre un truc chaud, on va dire à 50 degrés, tremper le doigt. Le doigt, il peut tenir à l'intérieur. Dès que c'est 60-65 degrés, là, ça devient, non, le doigt ne peut plus rester à l'intérieur. Donc ça, c'est à peu près, d'après le premier avis qu'on a expliqué dans l'histoire du doigt et dans l'histoire du vent du Morisson, c'est déterminé dans la majeure partie des poskim, soit entre 60 et 65 degrés. Par contre, l'avis du Ben Ishraï, c'est 45 degrés. Donc maintenant, on a deux avis. Qu'est-ce qu'on fait? On a d'un côté 45 degrés, et on a d'un autre côté 60, on va dire 65 degrés. Alors justement, des fois ça va être la Kula et des fois ça va être la Khumra. Ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire, j'explique. Si maintenant j'ai quelque chose de... je suis dans les liquides. Donc maintenant j'ai une marmite avec de l'eau crue, de l'eau du robinet. D'accord? Quel est le temps que je veux dire? Quel est le temps qu'il faut qu'il s'écoule pour dire que je suis arrivé à Yad Soled Edbo et donc la cuisson de l'eau? Hmm? 45 degrés ou 65 degrés?
J'aurais dit 45.
Très bien. Parce que j'ai un safek, encore une fois. On revient toujours à la fameuse règle. On a un doute ici, on ne sait pas c'est quoi le Yad Soled Edbo de la Gemara. Donc on va prendre la température la plus basse. Parce que si Yad Soled Edbo c'est 45 degrés, donc dès que j'arrive à 45 degrés, j'ai transgressé la Melacha de Bichoul. Si je suis à 30 degrés, la personne a donné cette limite. Donc 30 degrés, j'ai pas encore transgressé Bichoul. 45 degrés, je crains cet avis et donc je dis que ça va être Bichoul. Par contre, si maintenant j'ai une marmite d'eau bouillante sur une flamme, donc elle est bien sur la flamme, elle est à 80 à 90 degrés. Si maintenant je retire et je veux me servir un verre de café, et maintenant je veux remettre cette bouilloire sur le feu, à partir de quand, de combien de température j'aurai le droit de la remettre sur le feu?
Il ne faut pas que la température est trop baissée, quoi. Il
ne faut pas qu'elle baisse de combien de degrés? De 45 degrés ou de 61 degrés?
J'aurais dit 45 aussi, mais je crois que c'est...
Pourquoi?
Vu que c'est déjà...
Je reprends. Ma marmite, elle est sur le feu, elle fait, on va dire, 80 degrés. Je veux me faire un café, je l'enlève du feu, d'accord? Après, on va rentrer dans les détails, comment on peut remettre et quand on peut remettre. On va dire que je remets dans les manières qui sont permises. Donc, je verse, je fais un café, j'attends, on va dire, 2-3 minutes. D'accord? Alors, combien de temps j'aurai le droit d'attendre pour pouvoir le remettre? Parce que plus j'attends, plus la température elle va descendre. Donc la question elle est, jusqu'à où ça descend pour que j'ai le droit de remettre? 65 degrés? Maintenant c'était 80. Dès que j'ai sorti pour faire mon café, ça commence à descendre. 79, 78, 77. Jusqu'à où j'ai le droit de descendre? Pardon? Très bien, 65. Parce que là c'est l'inverse qui se passe ici. Si je descends en dessous de 65, d'après la vie qui dit que Yad Soledet Bo, c'est 65 degrés, dès que je le remets sur le feu, ça va atteindre 65 degrés et j'aurai transgressé Michoul. Donc ce cas-là, c'est l'inverse de cas qu'on a donné tout à l'heure, de mettre de l'eau du robinet sur une flamme, que là, ça sera 45 degrés. Donc j'ai deux extrêmes, ça dépend de quoi on parle. D'accord? Dans tous les cas de figure, je vais craindre l'autre avis. Donc si je suis de l'état froid, l'eau froide, et que je rapproche ça de la source de chaleur, 45 degrés, ça va être le Yad Soledet Bo et le Michoul. Mais si je suis à l'état inverse, de chaud, de bouillant, qui se refroidit les athléates, alors là, je crains la vie qui dit 65 degrés. Et dès que ça atteint 65 degrés, un temps que maintenant ça va descendre à 65 degrés, je pourrai le remettre sur le feu. D'accord? C'est clair? Il y a des questions là-dessus, sur ce qu'on vient d'expliquer? C'est bon. Donc ça s'appelle Yad Soledet Bo. Et en fait, c'est le temps X qu'il nous faut pour tous les liquides. Donc maintenant, on a fini le sujet là, du temps X qu'il faut, parce qu'on a dit Melechet Bichoul, c'est posé sur une source de chaleur, mais avec la condition qu'il y ait un temps X qui s'écoule. Dans les aliments qui sont crus, que je veux cuire, on a dit c'est le tiers de la cuisson. Et on a dit, attention aussi, que c'est pas seulement ça, c'est même entre le tiers et la cuisson totale, toute chose que je veux faire pour accélérer et activer, ça rentrera aussi dans la melacha de Bichoul. Mais minimum, c'est le tiers. Ensuite, on a parlé de tout ce qui est afia, tous les enfournements, ouais, on appelle ça en français. Donc là, ça sera le fait qu'il y ait une formation d'une croûte, achi, cremo, panea. Avant ce schlav, si on voit encore que c'est encore de la pâte molle, même si j'ai déjà 5, 10, un quart d'heure dans le four et que c'est encore de la pâte molle sans croûte, c'est pas encore arrivé à ce stade de cuisson. Et dans les liquides, c'est le principe qui s'appelle Yad Soledet Bo. Et on a vu deux avis, et on a dit tout dépend du cas de sujet. Si ça passe du froid au chaud, la limite, ça sera temps X, ça sera de 0 degré à 45 degrés. Par contre, si c'est l'inverse de chaud à froid, c'est-à-dire que ça se refroidit, et que je veux remettre ça sur la source de chaleur, alors on a dit c'est dès que ça descend jusqu'à 65 degrés.
Alors,
j'ai
quand même une question.
Oui.
Par exemple, on fait une soupe.
Oui. C'est liquide, oui. Alors, en général, une soupe, il y a deux choses. C'est une soupe, il n'y a que de l'eau. On va dire qu'il y a une soupe que d'eau, sans légumes à l'intérieur, sans rien. Donc là, hein, qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que le fait que ma soupe, elle est déjà cuite? Alors là, c'est un peu la question que vous demandez maintenant, ça ressemble un peu à la question que vous demandez tout à l'heure, avec la challah de réchauffer. C'est en fait le sujet qu'on va aborder dans les cours à venir, c'est est-ce que le bichoul, il est même dans quelque chose qui a déjà cuit? Alors en fait, c'est moi qui ai déjà commencé à déborder les yeux parce que j'ai parlé de l'eau qui était à 100 degrés et que je l'ai enlevée. Alors, il faut savoir qu'il y a une grande différence entre ce qui est solide et ce qui est liquide. Alors là, je dis en très bref, parce que je veux bien détailler ça quand on va arriver à ça. Dans le liquide, l'avis du Shulchan Aruch, comme ça les Sfaradim sont poskim, que même si ça a déjà été cuit, on va dire la soupe dans notre cas à nous, si elle, le bouillon, si elle refroidit totalement, le fait de refaire une nouvelle un nouveau réchauffement, ça rentrera dans Melechet Bishoul. Même si je fais ça plusieurs fois. Ce qui n'est pas le cas dans les aliments qui sont déjà cuits. Alors ça, c'est en très bref. C'est en fait le principe de Bishoul Achar Bishoul. D'accord ? Donc le Shulchan Aruch, dans le cas où vous m'avez demandé, par exemple. Je fais en même temps les deux cas, les deux questions. La challah que je fais réchauffer, puisque c'est sec, il n'y aura pas de bichoul, j'ai le droit de la réchauffer. Kamouvan, bien sûr, avec toutes les conditions qu'on va voir comment on peut la réchauffer. Et le bouillon que j'ai retiré, qu'on va dire que j'ai attendu une bonne demi-heure, que c'est sûr que ça a descendu en dessous de 65 degrés. Alors là, je n'aurai pas le droit de le remettre sous la source de chaleur. D'après le Shulchan Aruch, le Sfaradim. D'accord ?
Dernière question, quand est-ce qu'on considère que c'est liquide et solide, en fait, si on a un mélange des deux ?
Alors, si on a un mélange des deux, il faut traiter les deux choses.
D'accord.
C'est-à-dire ?
Il y a les deux contraintes, en fait.
Et je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Je prends une marmite, et je fais un bouillon de légumes. D'accord ? Donc maintenant, on va dire avant Shabbat, j'ai mis ça, on a dit tout à l'heure que si on pose même 5 minutes avant Shabbat quelque chose de totalement cru, il n'y a aucun problème du point de vue Bishoul. Parce que la melacha, elle est de poser sur la source de chaleur. Oui ? Donc maintenant, j'ai posé avant Shabbat un bouillon avec des pommes de terre. On va dire, après l'entrée de Shabbat, on va dire, une demi-heure s'est écoulée. Qu'est-ce qui se passe dans la demi-heure qui s'est écoulée ? Mon bouillon, il est déjà arrivé à 45 degrés, même plus que 65 degrés en une demi-heure. Mais la pomme de terre, elle n'est pas encore cuite. Donc maintenant, j'ai un cas de figure que le bouillon, si je retire tout de suite et que je remets, il n'y a pas de problème parce qu'il est déjà bien au-dessus, il est déjà à 80-90 degrés au moins quand c'est sur la flamme. Donc par rapport au bouillon, j'aurai pas de problème, mais par rapport à la pomme de terre, qui n'est pas encore arrivé, comme on a expliqué tout à l'heure, à son kol sorko, à son bichoul total, le fait que je retire même une seconde et que je le remets, je transgresse le melacha de bichoul. Donc là, c'est un cas, c'est intéressant. On a les deux cas de figure que, par rapport au bouillon, j'ai pas de problème, parce que le temps est arrivé, mais par rapport à la pomme de terre, le temps n'est pas encore arrivé. Donc il faut traiter les deux sujets en même temps. D'accord ? Donc tout ça, c'était pour traiter en fait dans la démarche que, pour encore une fois répéter la définition de Bishoul, c'est poser plus un temps X qui s'écoule. Et là, on a développé en trois sortes de choses. Quel est ce temps X là de Bishoul pour qu'il y ait Tnaï pour arriver au Menacha de Bishoul. Deuxième sujet maintenant. On a le temps ou pas? Quand est-ce qu'on a commandé? Daniel, on a le temps?
Oui.
Top.
J'étais
avec David tout le cours seulement.
Ah, ça y est, Shoshana est arrivée. Shoshana, vous êtes là? Shoshana arrive. Voilà. Il y a Daniel qui va arriver. Mais bon, on continue le cours parce que ça, au moins on sera prêt pour la prochaine fois, pour au moins ces quatre personnes.
D'accord. Maintenant, il y a une possibilité que moi je vois les personnes? Est-ce que moi je peux voir tous les ceux qui sont dans le cours?
C'est pas peu demandé à...
Moi j'ai demandé à Gérard. Ok. Top. Deuxième sujet maintenant, c'est la source de chaleur. Pour transgresser la melacha de Bishoul, quelle source de chaleur il me faut?
Vous êtes là, Rose?
Je n'entends pas.
Rose, vous êtes là? Continue.
On continue. La source de chaleur, alors on revient toujours au Mishkan. Mishkan pour cuire la peinture, la fausse peinture, il y avait une flamme, du feu. D'accord ? De la manière que l'eau teva ruesh bechol mojvotechem, d'où on l'a appris. Parce qu'au Mishkan, on avait une flamme pour cuire cette peinture-là. Donc le cuir maintenant, ça va être la flamme. Maintenant, lorsque je suis en train de cuire, si je parle de source de chaleur, c'est pas seulement le feu qui agit ici. C'est aussi l'eau qui a été bouillie par le feu. Maintenant, lorsque j'ai deux, d'accord, quand je mets mon aliment, lorsque je prends du poulet cru et que je le mets maintenant dans... Je fais un bouillon de poulet. Lorsque mon poulet va cuire, c'est vrai que c'est par le feu à la base, mais c'est aussi par l'eau qui est bouillante, qui va agir directement sur le poulet et qui va le ramollir. Comme on a dit, ramollir un corps dur. Alors, en hébreu, ça s'appelle comme ça. Il y a... Our. Our, en hébreu, c'est le feu. Comme Our Kazdim. Donc, Our, c'est le feu. Et Toldot Our, c'est-à-dire dérivé du feu. Dérivé du feu. Donc, si, par exemple, j'ai une plaque chauffante, une plaque qui a été chauffée par le feu. Maintenant, je prends cette plaque qui est bouillante et je casse un œuf dessus, je fais une omelette. Donc maintenant, mon omelette, ici, elle n'a pas été cuite par la flamme. Elle a été cuite par un dérivé de flamme. C'est ma plaque. Alors, pour la melacha de bichou, il n'y a aucune différence entre la flamme et la dérivée de la flamme. Ou toldot ou, dans les deux cas de figure et ces deux sources de chaleur, ça sera un interdit de la Torah. Si jamais j'approche de cette source-là quelque chose de cru, j'ai attendu un temps X. D'accord ? Tout ce qui est électrique, tout ce qui est plaque chauffante, tout ce qui est électrique, tous les appareils électriques aujourd'hui qui nous permettent de cuire, tous les fours, toutes les plaques chauffantes possibles et imaginables, tout ça, ça rentre dans le principe de toldot haour. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'au Mishkan, il n'y avait pas d'électricité, donc l'électricité, ce n'est pas du feu. Tous les poskim sont d'accord aujourd'hui que l'électricité d'aujourd'hui, c'est considéré comme du feu. Donc, pour la melacha de Bichoul, dès que j'utilise de l'électricité, et c'est cette électricité, elle va créer une source de chaleur, cette source de chaleur, ça va s'appeler, on ne voit pas de flamme ou quelque chose, mais ça s'appelle dérivé du feu. Et donc, approcher de cette source-là quelque chose qui va être quelque chose qui va cuire sur cette source de chaleur, ça sera la melacha de Bichoul. Maintenant, il y a autre chose qui va être totalement permis, même si tous les critères s'accomplissent. C'est quoi? C'est le soleil. Si je prends une bouteille d'eau, d'accord? On va dire que il fait une belle chaleur, une bonne température dehors, et que je laisse cette bouteille, d'accord, il fait 45 degrés à la météo ce jour-là, et donc je laisse cette bouteille, et cette bouteille va arriver au soleil à 45 degrés. Donc, d'après les critères qu'on a vus tout à l'heure, arriver de 0 à 45 degrés, ça s'appelle Yad Soleil d'Edbo, donc apparemment ça s'appelle Bichoul. Alors là, il faut savoir que c'est totalement permis. Pourquoi ? Parce que ça n'a rien à voir avec la melacha du Mishkan. Au Mishkan, on utilisait le feu ou le dérivé du feu, on n'utilisait pas le soleil. Donc le fait d'utiliser le soleil, ça n'a rien à voir avec la melacha de Bichoul. Et donc, c'est permis. Donc un exemple technique, comme on dit, la bouteille d'eau au soleil, ou bien si par exemple aussi je prends une loupe et je prends avec la loupe tous les rayons de soleil se concentrent sur un aliment cru, d'accord? Donc comment mon aliment cru il va être directement mis au rayon du soleil qui va être concentré par ma loupe, et j'obtiens un aliment qui cuit, on a le droit de faire cette action pendant Shabbat. Malgré que mon aliment il est cru, et je passe de cru à cuit, et que je ramollis avec tout le temps qu'on a parlé, le tiers de la cuisson, tout est là. Seulement, ce qui manque, c'est la source de chaleur ici qui manque. Donc ce point-là, il est important. Ça, il faut se référer au Mishkan, il faut que ça soit du feu ou bien quelque chose qui s'appelle dérivé du feu, comme on a dit, électricité, plaque chauffante, tout ce qui est dérivé du feu. Mais soleil, ça ne rentre pas du tout dans la melacha de Bichoul. Alors maintenant, il ne faut pas confondre que si maintenant je prends une loupe et que je suis resté longtemps sur le soleil et qu'il y a une flamme qui s'est faite, alors je n'aurai pas le droit de cuire avec cette flamme. On est d'accord? Parce que là, j'ai créé du feu, là. D'accord? Là, c'est du vrai feu. Mais quelque chose qui a été fait par les rayons du soleil, le rayon du soleil, ce n'est pas une flamme. Le rayon du soleil, il n'y a aucun problème de cuire pendant Shabbat avec ça.
Bonsoir, Cheikh.
Bonsoir.
À mon avis, il faut que vous mettiez votre micro. Ah, continue, mon réfraction. Oh, elle nous a quitté.
Top.
Et on va
arrêter là. Juste termine un petit point, on s'arrête là.
Tac.
Si on a parlé de feu, dérivé du feu et soleil, maintenant il y a quelque chose, un quatrième élément pour arriver, c'est le dérivé du soleil. C'est-à-dire, j'ai par exemple le capot d'une voiture, toute neuve, oui, pas sale, et que je fais une omelette maintenant sur mon capot de la voiture. Donc la voiture, maintenant, j'ai rentré au garage, mais le capot, il est bouillant. Je casse un œuf dessus, ça me fait une omelette, une belle omelette. Est-ce que j'aurais le droit de faire ça avant mon Shabbat? Alors là, les chachamim ont interdit. Pourquoi? Les chachamim s'interdit par les chachamim. Torah, c'est pas par la Torah. On a dit, Torah, c'est que feu dérivé du feu, point. Soleil, non. Mais là, une plaque qui a été chauffée par le feu, ou une plaque qui a été chauffée par le soleil, ça se ressemble énormément. D'où je peux savoir, moi? Je peux prendre deux plaques, un je l'ai chauffé par une flamme, l'autre elle était au soleil à 45 degrés. Les deux plaques, elles sont bouillantes. Donc, puisque ça ressemble, on rentre toujours dans l'exérote de Chachamim, que dès que ça ressemble, Chachamim font des barrières, et ils disent qu'on est gozer toldot achama atu toldot ahu. Ça, c'est le lachon de la Gemara. C'est-à-dire, Chachamim ont interdit les dérivés du soleil à cause des dérivés du feu. Et donc, cuire dessus, ça sera un interdit seulement des Chachamim. D'accord? Donc, c'est toldot achama et toldot ahu. Ça, c'est. On a clôturé le dossier de notion de chaleur et vous allez voir que c'est très pratique ce cas. C'est toute l'histoire des robinets. Ouvrir les robinets d'eau chaude pendant Shabbat. Ça, on va être attaché, on va parler de ça la semaine prochaine. Et on terminera en fait le sujet.
On va terminer le cours là. Oui. Ce que je vous
demandais,
c'est simplement de rester connecté encore 5-10 minutes. Mm-hmm. 5 minutes.
Mmh.
Daniel, je vous vois arriver. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Alors, pour activer le micro, il faut cliquer à gauche sur l'image de casque.
Bon, pardon, excuse-moi d'aller.
Pour activer le micro, il faut cliquer sur le code.
Il n'y a pas de connecté à l'audio, c'est ça?
Gérard,
ouais.
T'es là? Non, là, c'est bon, mais il n'y a pas eu beaucoup de monde, il n'y a qu'une seule personne.
Qu'une seule personne,
tout ouais.
Quoi.
Maintenant, regarde, il essaye de contacter d'autres personnes. Comment je vois, moi, les gens?
C'est eux qui doivent mettre. Ils doivent cliquer sur la caméra à chaque fois. Pour éteindre la caméra ou mettre la caméra? C'est pas toi qui décide.
Allez, Daniel est parti. C'est bête.
Ah, c'est eux qui doivent cliquer sur la caméra?
Voilà. T'as pas envie qu'on te voit parce que t'es en pyjama, alors tu enlèves la caméra.
Top. David, Shavuatov.
Shavuatov. J'essaierai de connecter tous les gens dans la semaine, les uns derrière les autres, en one-to-one.
Voilà.
Un nouveau sujet. Toujours dans ce même cadre, de temps de bichoule qu'il faut. Tout ce qui est liquide. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose. On va prendre l'eau, on va prendre le liquide le plus simple, c'est de l'eau. Si je prends de l'eau, d'accord, je prends de l'eau, on va dire une marmite remplie d'eau, et je la pose sur le feu. Un nouveau sujet. Toujours dans ce même cadre, de temps de bichoule qu'il faut. Tout ce qui est liquide. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose. On va prendre l'eau, on va prendre le liquide le plus simple, c'est de l'eau. Si je prends de l'eau, d'accord, je prends de l'eau, on va dire une marmite remplie d'eau, et je la pose sur le feu. Un nouveau sujet. Toujours dans ce même cadre, de temps de bichoule qu'il faut. Tout ce qui est liquide. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose. On va prendre l'eau, on va prendre le liquide le plus simple, c'est de l'eau. Si je prends de l'eau, d'accord, je prends de l'eau, on va dire une marmite remplie d'eau, et je la pose sur le feu. Un nouveau sujet. Toujours dans ce même cadre, de temps de bichoule qu'il faut. Tout ce qui est liquide. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose. On va prendre l'eau, on va prendre le liquide le plus simple, c'est de l'eau. Si je prends de l'eau, d'accord, je prends de l'eau, on va dire une marmite remplie d'eau, et je la pose sur le feu. Un nouveau sujet. Toujours dans ce même cadre, de temps de bichoule qu'il faut. Tout ce qui est liquide. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose. On va prendre l'eau, on va prendre le liquide le plus simple, c'est de l'eau. Si je prends de l'eau, d'accord, je prends de l'eau, on va dire une marmite remplie d'eau, et je la pose sur le feu. Un nouveau sujet. Toujours dans ce même cadre, de temps de bichoule qu'il faut. Tout ce qui est liquide. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose. On va prendre l'eau, on va prendre le liquide le plus simple, c'est de l'eau. Si je prends de l'eau, d'accord, je prends de l'eau, on va dire une marmite remplie d'eau, et je la pose sur le feu. Un nouveau sujet. Toujours dans ce même cadre, de temps de bichoule qu'il faut. Tout ce qui est liquide. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose. On va prendre l'eau, on va prendre le liquide le plus simple, c'est de l'eau. Si je prends de l'eau, d'accord, je prends de l'eau, on va dire une marmite remplie d'eau, et je la pose sur le feu. Un nouveau sujet. Toujours dans ce même cadre, de temps de bichoule qu'il faut. Tout ce qui est liquide. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose. On va prendre l'eau, on va prendre le liquide le plus simple, c'est de l'eau. Si je prends de l'eau, d'accord, je prends de l'eau, on va dire une marmite remplie d'eau, et je la pose sur le feu. Un nouveau sujet. Toujours dans ce même cadre, de temps de bichoule qu'il faut. Tout ce qui est liquide. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose. On va prendre l'eau, on va prendre le liquide le plus simple, c'est de l'eau. Si je prends de l'eau, d'accord, je prends de l'eau, on va dire une marmite remplie d'eau, et je la pose sur le feu. Un nouveau sujet. Toujours dans ce même cadre, de temps de bichoule qu'il faut. Tout ce qui est liquide. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose. On va prendre l'eau, on va prendre le liquide le plus simple, c'est de l'eau. Si je prends de l'eau, d'accord, je prends de l'eau, on va dire une marmite remplie d'eau, et je la pose sur le feu. Un nouveau sujet. Toujours dans ce même cadre, de temps de bichoule qu'il faut. Tout ce qui est liquide. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose. On va prendre l'eau, on va prendre le liquide le plus simple, c'est de l'eau. Si je prends de l'eau, d'accord, je prends de l'eau, on va dire une marmite remplie d'eau, et je la pose sur le feu. Un nouveau sujet. Toujours dans ce même cadre, de temps de bichoule qu'il faut. Tout ce qui est liquide. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose. On va prendre l'eau, on va prendre le liquide le plus simple, c'est de l'eau. Si je prends de l'eau, d'accord, je prends de l'eau, on va dire une marmite remplie d'eau, et je la pose sur le feu.